Pierre Loti, une bête galeuse. Un vieux chat galeux, chassé sans doute de son logis par ses maîtres, s'était établi dans la rue, sur le trottoir de notre maison, où un peu de soleil de novembre le réchauffait encore. C'est l'usage de certaines gens à pitié égoïste d'envoyer ainsi perdre le plus loin possible les bêtes qui ne veulent ni soigner ni voir souffrir. Tout le jour, il se tenait piteusement assis dans quelque embrasure de fenêtre, l'air si malheureux et si humble. Objet de dégoût pour ceux qui passaient, menacé par les enfants, par les chiens, en danger continuel d'heure en heure plus malade, vivant de je ne sais quel débris ramassé à grand-peine dans les ruisseaux, il traînait là, seul, se prolongeant comme il pouvait, s'efforçant de retarder la mort. Sa pauvre tête était toute mangée de gales, couverte de croûtes, presque sans poils. Mais ses yeux restaient jolis, semblaient penser profondément. Il devait certainement sentir dans toute son amertume affreuse cette souffrance, la dernière de toutes, de ne pouvoir plus faire sa toilette, de ne pouvoir plus lisser sa fourrure, se peigner comme font tous les chats avec tant de soin. Faire sa toilette. Oh, je crois que pour les bêtes comme pour les hommes, c'est une des plus nécessaires distractions de la vie. Les très pauvres, les très malades, les très décrépits, qui à certaines heures se partent un peu, essayent de s'arranger encore, et n'ont pas perdu donc toutes les dents dans l'existence. Mais ne plus s'occuper de son aspect, parce qu'il n'y a vraiment plus rien à y faire avant la pourriture finale, cela m'a toujours paru le dernier degré de tout, la misère suprême. Oh, les vieux mendiants qui ont déjà avant la mort de la terre et des immondices sur le visage, les êtres rongés par des lèpres visibles qui ne peuvent plus être lavées, les bêtes galeuses dont on n'a seulement plus pitié. Il me faisait tant de peine à regarder ce chat à l'abandon qu'après lui avoir envoyé à manger dans la rue, je finis un jour par m'approcher pour lui parler doucement. Les bêtes arrivent très bien à comprendre les bonnes paroles et y trouvent consolation. Par habitude d'être pourchassé, il eut d'abord peur en me voyant arrêter devant lui. Son premier regard fut méfiant, chargé de reproches et de prières. « Est-ce que tu vas encore me renvoyer, toi aussi, de ce dernier coin de soleil ?» Puis, comprenant vite que j'étais venu par sympathie, étonné de tant de bonheur, il m'adressa tout bas sa pauvre réponse de chat, en se levant par politesse, en essayant même de faire le gros dos, malgré ses croûtes, dans l'espoir que peut-être j'irai jusqu'à une caresse. Non, ma pitié à moi, qui seul au monde en éprouvais encore pour lui, n'allait pas jusque-là. Cette joie d'être caressé, il ne la connaîtrait sans doute jamais plus. Mais en compensation, j'imaginais de lui donner la mort tout de suite de ma main, et d'une façon presque douce. Une heure après, cela se passa dans l'écurie où Sylvestre, mon domestique, qui d'abord était allé chercher du chloroforme, l'avait attiré doucement, l'avait décidé à se coucher sur du foin bien chaud au fond d'une manne d'osier qui allait devenir sa chambre mortuaire. Nos préparatifs ne l'inquiétaient point. Nous avions roulé une carte de visite en forme de cône, comme nous avions vu faire à des chirurgiens dans des ambulances, et lui nous regardait, l'air confiant et heureux, pensant avoir enfin retrouvé un gîte et des gens qui auraient compassion, de nouveaux maîtres qui le recueilleraient. Cependant, je m'étais baissé pour le caresser, malgré l'effroi de son mal, ayant déjà reçu des mains de Sylvestre le cornet de carton tout imbibé de la chose mortelle. En le caressant toujours, j'essayais de le décider à rester là, bien tranquille, enfonçait peu à peu son bout de nez dans ce carton endormeur. Lui, un peu surpris d'abord, reniflant avec un vague effroi cette senteur inconnue, finit pourtant par se laisser aller avec une soumission telle que j'hésitais à continuer mon œuvre. L'anéantissement d'une bête pensante, tout autant que celui d'un homme, a de quoi vous confondre quand on y songe. C'est toujours le même révoltant mystère. Et la mort, d'ailleurs, porte en elle tant de majesté qu'elle est capable d'agrandir un instant, d'une façon inattendue, démesurer les plus infimes petites scènes dès que son ombre est près d'y apparaître à ce moment. Je fis presque l'effet de quelque magicien noir s'arrogeant le droit d'apporter aux souffrants ce qu'il croit être l'apaisement suprême, le droit d'ouvrir à ceux qui ne l'ont pas encore demandé les portes de la grande nuit. Une fois, il releva pour me regarder fixement sa pauvre tête bientôt morte. Nos yeux se croisèrent, les siens interrogateurs, expressifs, avec une intensité extrême, me demandant « Mais que me fais-tu ? Toi à qui je me suis confié et que je connais si peu, que me fais-tu ?» Et j'hésitais encore. Mais son cou retomba, sa pauvre tête dégoûtante s'appuyait maintenant dans ma main que je ne retirais pas. Une torpeur envahissait malgré lui, et j'espérais qu'il ne me regarderait plus. Si pourtant, une dernière fois, les chats, comme disent les bonnes gens du peuple, ont l'âme chevillée au corps. Dans un dernier soubresaut de vie, il me fixa de nouveau à travers son demi-sommeil mortel. Il semblait même avoir maintenant tout à fait compris. Alors c'était pour me tuer, décidément. Et tu vois, je me laisse faire, il est trop tard, je m'endors. En vérité, j'avais peur de m'être égaré dans ce monde où nous ne savons rien de rien. Il ne nous est même pas permis d'avoir pitié d'une façon intelligente. Voici que son regard, infiniment triste, tout en se vitrifiant dans la mort, continuait de me poursuivre comme d'un reproche. Mais pourquoi t'es-tu mêlé de ma destinée ? Sans toi, j'aurais pu traîner quelques heures de plus, avoir encore quelques petites pensées pendant au moins une semaine. Il me restait assez de force pour sauter sur les appuis de tes fenêtres, où les chiens ne me tourmentaient pas trop, où je n'avais pas trop froid. Le matin surtout, quand le soleil y donnait, je passais là quelques heures presque supportables, à regarder autour de moi le mouvement de la vie, à m'intéresser aux allées et venues des autres chats, à avoir encore conscience de quelque chose. Tandis qu'à présent, je vais me décomposer à jamais en je ne sais quoi d'autre, qui ne se souviendra pas. À présent, je ne serai plus. J'aurais dû me rappeler, en effet, que les plus chétifs aiment mieux se prolonger par tous les moyens jusqu'aux limites les plus misérables, préfèrent n'importe quoi à l'épouvante de n'être rien, de ne plus être. Quand je revins dans la soirée le voir, je le retrouvai raidi et froid dans la pose du sommeil où je l'avais laissé. Alors je commandai à Sylvestre de fermer le petit panier mortuaire et de l'emporter loin de la ville pour le jeter dans les champs.